Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans Vivante Église. Aujourd'hui, nous allons évoquer deux figures fortes et inspirantes. Sainte Bernadette, que nous allons découvrir comme une véritable influenceuse de Dieu pour toutes les générations, et Monseigneur Théas, ancien évêque de Montauban. Dans un monde saturé d'images, de réseaux, de sollicitations, on parle souvent d'influenceurs. Mais si nous parlions aujourd'hui de cette jeune fille, Bernadette de Lourdes, malade, pauvre, qui n'a jamais cherché à se faire connaître, qui n'a jamais cherché à être une star de cinéma, qui a bouleversé le monde par sa foi, son bon sens, sa simplicité et sa radicalité. Autour de cette table, je reçois Monseigneur Alain Guélec, bonjour, évêque de Montauban. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
À vos côtés, vous êtes bien entouré, Père Jean-Baptiste Baudel. Bonjour Père Baptiste Baudel.
Bonjour Nathalie.
Alors vous êtes responsable de la pastorale des jeunes sur ce diocèse. À vos côtés, Sœur Marie-Laetitia de la communauté Marie-Mère de l'Église. Bonjour ma sœur.
Bonjour Nathalie.
Alors vous êtes bien entouré, Monseigneur Guélec, Père Baudel et Sœur Marie-Laetitia. Vous avez amené ici à Lourdes, puisque votre diocèse de Montauban vit un beau pèlerinage dans cette cité mariale. À vos côtés, Monseigneur, on retrouve Florane. Bonjour Florane.
Bonjour.
Alors c'est des moments forts, spirituels pour vous ici, oui. Et puis scolairement, vous êtes lycéenne et vous vous préparez à passer votre bac.
C'est ça, au lycée Pierre-Marie Théas, donc ça vaut bien.
Ça tombe bien.
Voilà.
Bonjour Enzo.
Bonjour Nathalie.
Alors vous êtes vous-même aussi élève de terminale et vous vous préparez à passer votre bac.
Également.
Oui. Tout va bien pour vous deux?
Bon, on prie,
oui,
pour que ça passe.
Alors l'affaire est sérieuse aujourd'hui dans ce plateau de Vivante Église et merci d'avoir dit oui. Je vais quelque peu dans cette première partie de Vivante Église vous interroger autour de cette figure de Bernadette que j'ai présentée. C'était un peu votre idée puisque nous avons préparé ce plateau, Sœur Marie-Laetitia, comme une influenceuse de Dieu. Qu'est-ce qui vous a inspiré?
Alors, influenceuse, non pas dans le sens aujourd'hui où l'influenceur est plutôt quelqu'un qui ramène les choses plutôt à lui, enfin qui se montre la figure dominante pour les autres. Là, Bernadette, c'est le sens inverse, c'est-à-dire qu'elle est influenceuse dans le sens où son don total au Seigneur, tout ce qu'elle a vécu tourné vers les autres et vers le Seigneur, eh bien, attire les gens, les personnes, surtout les jeunes. Et ce qui est très fort chez elle, c'est que toute sa partie de difficulté qu'elle a eu d'épreuve est dans sa période d'adolescence. Et donc pour les adolescents, elle est un message très fort et très parlant qu'on a besoin de redécouvrir ou de découvrir aujourd'hui.
Monseigneur Alain Guélec, qu'a-t-elle à dire aux jeunes aujourd'hui et au fond les jeunes et toutes les générations?
Bien sûr, parce que Bernadette, comme vous le disiez, est une jeune fille, environ 15 ans au moment des apparitions, je crois, courageuse. Face à toutes sortes de difficultés personnelles, de santé et de contexte. Et puis une jeune fille très réaliste. Je crois qu'il y a quelque chose là aussi. Il n'y a pas de grand discours de Bernadette. Elle n'a pas écrit énormément. Elle a écrit quelques lettres après. Mais sur les événements elle-même, elle reste très factuelle, très réaliste. Elle dit « voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai à vous dire ». Donc je crois qu'il y a quelque chose de la spontanéité, de la simplicité. Et de la joie, Bernadette, tant qu'on puisse le savoir, était une fille très joyeuse et très pleine d'humour aussi, avec de beaux traits d'esprit, voilà, dans cette situation où elle était quand même malmenée, il faut dire. Hein, elle n'a pas toujours été exaltée comme un modèle. Au contraire, il a fallu qu'elle lutte aussi contre tout cela. Donc voilà, c'est ça, c'est le courage, c'est la ténacité et c'est la simplicité.
Et pour vous, Père Baptiste, Jean-Baptiste Baudel, qui avait quand même pour mission sur ce diocèse de Montauban, enfin, d'accompagner les jeunes. Alors, qu'en est-il? Bernadette, une véritable influenceuse, qu'en pensez-vous?
Oui, moi je dirais qu'elle peut toucher les jeunes par, par le fait qu'elle... Non, je ne sais pas.
Les jeunes vont vous aider.
Oui,
les jeunes vont vous aider. C'est la première fois que vous passez à la radio.
Oui, oui, oui.
Vous êtes peut-être un peu intimidé. Si on laissait la parole, vous les connaissez bien, Enzo et Florane. Enzo, Bernadette, une véritable influenceuse. Elle parle à votre cœur de jeune.
Oui, exactement.
Et que peut-elle dire aux jeunes ? On vous écoute et merci.
Donc, je rejoins Mgr Guélec et Sœur Marie Laetitia. Donc, ce que j'aime chez Bernadette, c'est le fait que malgré qu'elle soit jeune, sa parole est légitime et que aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui ils n'osent peut-être pas proclamer leur foi, proclamer la vérité, et pourtant c'est ce que Sainte Bernadette a fait. Et même si l'Église était contre elle au début, aujourd'hui on est à des milliers de conversions, donc que les jeunes n'hésitent pas à parler de leur foi et dire la vérité, parce qu'on ne sait pas où ça peut mener.
Oui, c'est ça, elle a une sorte de courage évangélique, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais elle a dit oui là où de nombreux auraient dit non, là où ça aurait pu peut-être être inconfortable. Et pour revenir sur l'influence, je trouve que Bernadette, elle est influenceuse, mais elle ne cherche pas à séduire, elle cherche à montrer cette influence par le service. Et je pense que ça, c'est un message qui peut toucher beaucoup de jeunes, surtout aujourd'hui, nous, des influenceurs, quand on y pense, on pense aux réseaux sociaux, etc. Là, c'est pas, on cherche pas à vendre un produit, on cherche à parler de la parole de Dieu, à faire rentrer Jésus dans les cœurs, et ça passe par le service, et je pense que c'est un des plus beaux messages qu'elle nous porte.
Voilà, moi j'aimerais rebondir donc sur sa parole la plus importante. Je suis chargé de vous le dire, pas de vous le faire croire. Mm-hmm. Donc c'est ma phrase préférée de Sainte Bernadette, parce que c'est là où pour moi est la mission évangélique. C'est que quand on parle de la vérité, on cherche forcément à convertir, en fait ce n'est pas libre. Et surtout, on peut peut-être en tirer un orgueil aussi de cette conversion, alors que Sainte Bernadette, quand elle a annoncé la vérité, ce n'était pas pour elle, mais c'était tout simplement pour rendre gloire à Dieu. Et elle sait très bien que toutes ces conversions, c'est grâce à Dieu et grâce à Marie. Donc moi, j'encourage tous les jeunes qui nous écoutent à toujours parler de leur foi avec authenticité et vérité, et ne pas avoir peur.
Et si vous parlez de ces jeunes et du témoignage, si vous deviez décrire chacun, là, autour de cette table, Bernadette, et pour vous, jeunes, à des amis, vous diriez quoi de Bernadette, Florane ?
Waouh ! Je dirais que c'est une jeune fille courageuse, humble et inspirante. Voilà, si je devais utiliser trois mots, ce serait ces derniers.
Moi, je dirais une fille têtue. Parce que quand même, face à des évêques et des prêtres, elle continue. Et peut-être naïve, mais pas dans le sens péjoratif, mais une fille qui accueille la vie. Voilà.
Alors, on parle d'évêques, vous avez envie de réagir ?
Oui.
Toujours avec cette figure de Bernadette et son courage et son humilité.
Le courage, voilà, on l'a évoqué, hein, c'est qu'elle a dû affronter tout ce qui était hostilité, et puis on voulait la faire taire, etc., mais jamais... Parce qu'elle était habitée par la présence de la Vierge et la présence divine. Et je crois que c'est ça, hein, votre joie, nul ne pourra vous la ravir. Nous l'entendrons dans l'évangile de ce jour. Je crois qu'elle incarne aussi cette parole du Christ. Elle est, personne ne pourra vous empêcher. Et cette joie qu'elle a ne vient pas d'elle, c'est un don du ciel. Et dès lors, elle n'a plus rien à craindre.
Moi, ce qui m'a beaucoup marqué aussi chez Bernadette, qu'on le verra dans la deuxième partie dans sa vie chez les sœurs, c'est qu'elle disait, et on disait d'elle, qu'elle était inutile, à tel point qu'on ne savait pas quoi faire d'elle. Ses supérieurs ne l'ont pas envoyée parce qu'elle disait qu'elle était bonne à rien. Et en fait, ce message à travers ça, surtout aujourd'hui, il me semble que c'est assez actuel. Elle nous montre qu'en fait, l'important n'est pas ce que l'on fait, mais ce qu'on donne par amour. Et elle a beaucoup, beaucoup donné par amour aux pauvres, d'abord à ses sœurs quand elle s'est occupée des malades. Et puis, encore une fois, elle s'est toujours tournée vers les autres, même dans sa souffrance, quand elle s'est occupée de ses frères et sœurs, alors que, vous voyez, elle partageait la nourriture jusqu'à elle, se sacrifier. Et dans toutes ces souffrances dont on a parlé, elle n'est jamais revenue sur elle-même, elle ne s'est pas plainte, elle s'est toujours ouverte. Et pourtant, elle disait qu'elle était bonne à rien, et les gens disaient qu'elle était bonne à rien. Mais... elle nous montre aujourd'hui que c'est pas le faire le plus important, c'est de tout donner par amour.
Ça, c'est un message fort pour les jeunes aujourd'hui, surtout ceux qui peuvent avoir des difficultés dans leur vie, dans leur famille, dans leur lycée. Le message de Bernadette, et comme vous venez d'expliquer son histoire, ça permet de pas, pour certains jeunes, je pense, de trouver un certain point d'ancrage et de poursuivre leur foi à travers son histoire, quoi. C'est un message hyper fort. Enzo, qu'est-ce que tu en dis?
Oui. Moi, j'aimerais rebondir dans ce message, c'est qu'aujourd'hui, dans une société où on lutte, où on combat pour la vie, Bernadette nous montre que malgré les souffrances qu'elle a, on peut toujours accomplir de grandes choses. Bernadette, pourtant, elle est passée par des gestes simples. Elle avait de l'asthme et elle est morte assez jeune, mais pourtant, sa vie avait du sens, même dans les souffrances.
Là, vous faites référence un peu à cette actualité autour de la fin de vie. J'aimerais peut-être que vous rebondissiez, Monseigneur Alain Guélec, cette fin de vie aussi presque héroïque aussi de Lourdes. On part à Nevers avec toujours cette figure de Bernadette qui est allée jusqu'au bout.
Elle est allée jusqu'au bout et elle a accompagné aussi. Je pense le temps qu'elle a vécu comme infirmière ou s'occupait de l'infirmerie. Donc elle a dû aussi elle-même accompagner, je pense, des sœurs vers leur fin de vie et pour les préparer à la rencontre avec le Seigneur. Donc là aussi, elle nous montre aussi, aujourd'hui, on parle beaucoup de ces gestes qui accompagnent, ces gestes de fraternité, mais dans le bon sens du terme, puisque le terme, on risque de le dévoyer. La fraternité, ce n'est pas pour donner la mort, c'est pour accompagner vers la vie. Et avec tout ce qu'on peut donner. Donc je crois qu'effectivement, comme tant d'autres, parce qu'on pourrait citer aussi d'autres, bien sûr, personnes qui aujourd'hui sont engagées dans les soins palliatifs, je crois qu'on l'a beaucoup entendu, mais malheureusement, on a beau le dire, depuis longtemps, on prône ce respect de la vie jusqu'à son terme ultime et naturel, mais je crains qu'on ne soit plus entendu sur certains domaines.
Sœur Marie-Laetitia.
Oui, en effet, on a l'impression d'être, je dirais, c'est le terme qui me vient et je trouve que ça touche bien Bernadette, on a l'impression d'être coincé, vous voyez. Et en fait, moi, ce qui me touche beaucoup aussi dans les apparitions, c'est que Bernadette, donc la Vierge lui apparaît, la Dame lui apparaît dans un lieu qui est coincé. Vous voyez, la grotte, c'est un lieu coincé, c'est fermé. Alors il y a d'autres apparitions, c'est sur une montagne, c'est dans le ciel, là c'est un lieu coincé. Et Bernadette, elle est coincée dans sa vie d'adolescente. Oui, elle est complètement coincée, elle est coincée dans sa maladie, elle est coincée dans sa scolarité parce qu'elle ne sait pas lire, écrire. Et pourtant, elle se laisse visiter. Vous voyez, elle est visitée par la Vierge Marie dans un moment où elle est coincée. Donc c'est à ce moment-là que la Vierge Marie vient la rencontrer. Et ce qui est très beau chez Bernadette, c'est qu'elle elle fuit pas cette réalité, comme vous disiez, Monseigneur, tout à l'heure. Elle l'accepte, elle l'assume et elle laisse sa souffrance, ces lieux où elle est coincée, être visitée par la Vierge Marie.
Voilà. Alors, merci infiniment. Dans cette société qui est marquée, parce qu'on parlait aussi de ces réseaux sociaux, qui est marquée par la recherche toujours de performance, de visibilité, de reconnaissance, que révèle, et on revient toujours un peu à cette vie cachée de Bernadette, que révèle la vie cachée de Bernadette vous avez noté aussi son silence, son courage, mais elle n'a pas cherché à briller. Vous avez envie de réagir. Aujourd'hui, vous jeunes, où il y a souvent... ce côté de visibilité, de performance à tout prix, où il faut se montrer et se montrer pour réussir. C'était pas le cas de Bernadette. Oui, elle a encore ça. Un message à dire.
Oui.
Quel est-il ?
Aujourd'hui, les jeunes, ils sont beaucoup dans le paraître. Et ce qu'on montre à l'extérieur, c'est peut-être pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc peut-être qu'on peut être beau à l'extérieur, mais détruit à l'intérieur. Et Bernadette nous montre que la vraie réussite, c'est le ciel. Puisque la Vierge lui a dit « Je ne te promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre ». Donc aujourd'hui, s'il y a des gens qui souffrent, qui pensent que leur vie n'a pas de sens, peut-être vous souffrirez aujourd'hui, mais pour une plus grande vie ailleurs. Et quand je disais que pourtant ça a fait de grandes choses, c'est avec du recul. Des centaines d'années plus tard, on a des milliers de conversions, des gens qui luttent contre la souffrance grâce au message de la Vierge et de Bernadette. Donc n'ayez pas peur de vivre, de partager vos souffrances, et pas besoin d'être dans le paraître et de dire que tout va bien.
Oui, et pour tous les jeunes peut-être qui nous écoutent, dans un monde qui s'expose beaucoup sur les réseaux sociaux, Bernadette, elle se cache, elle est humble, elle a dit, elle a cru, puis finalement elle s'est tue. Et c'est peut-être ça aussi qu'on devrait transmettre dans notre usage des réseaux sociaux. C'est pas un usage pour se montrer qui est superficiel, mais plutôt un retour sur soi, un travail intérieur qu'elle a dû sûrement mener tout au cours de sa vie avec ses apparitions. Et je pense que aujourd'hui ces jeunes, c'est ça, c'est ce travail intérieur là, alors que tout le monde reste sur la surface, le superflu, quoi. Et voilà, je pense qu'on devrait beaucoup méditer intérieurement.
Alors oui, je me tourne vers vous. Oui, vous voulez réagir, Monseigneur.
J'ajouterais aussi
vous écoute.
Que dans le temps des apparitions, qui a quand même duré plusieurs semaines. Il y a eu des moments difficiles aussi, puisqu'à un moment, la Vierge allait aller à la grotte Bernadette et la Vierge n'était pas là. Donc, il a fallu aussi qu'elle soit devant cette réalité en disant, mais est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est vrai? Vous voyez, elle a dû aussi vivre aussi quelque chose. Alors, on ne le sait peut-être pas parce qu'elle ne l'a pas laissé, mais on peut imaginer. Donc, des moments aussi de doute, peut-être d'hésitation, etc. Et donc, tout ça, ça fait partie aussi, je crois, qu'il ne faut pas avoir peur de cela non plus. Il y a des moments, comme on dit, des traversées du désert. Et ce n'est pas là que, pour autant que tout s'arrête.
Je dirais que cette traversée du désert, elle a même vécu jusqu'à la fin de sa vie, parce que c'est cette phrase que lui dira une vieille sœur, avec qui peut-être elle avait... Quelques difficultés, cette sœur lui dira « Pourquoi vous ?» Après tant d'années, voilà, où elle a été oubliée, elle est dans son couvent, elle est près de la mort, et cette sœur se pose la question « Pourquoi vous ?» Et Bernadette n'a pas spécialement de réponse à ça. Et en même temps, avec une grande humilité, elle lui dit « La Vierge, le Seigneur a choisi la plus petite de Lourdes, la plus simple. » De Lourdes. Et ça, je trouve ça très très beau, parce que voilà, elle ne se, même après tant d'années, elle ne se met pas en avant, même dans un moment voilà difficile où elle va vivre cette souffrance, voilà, elle ne se met pas en avant, elle ne se met jamais en avant.
Qu'est-ce qui vous touche à chacun? Ça sera la dernière question dans cette première partie de ce Vivante Église autour de Bernadette, cette influenceuse de Dieu. Voilà, et je vous vois, vous avez envie de réagir. Quelle partie de la vie de Bernadette, au fond, vous interpelle et vous touche particulièrement pour rendre témoignage aujourd'hui et maintenant? Alors, les jeunes pourront répondre, mais vous souhaitez réagir, sœur Marie-Laetitia.
C'est peut-être un peu ma vision en tant que religieuse. C'est sa capacité de liberté. Enzo disait tout à l'heure, c'était une jeune fille, une jeune femme, une sœur, une religieuse extrêmement libre, très très libre, c'est-à-dire qu'elle n'était pas dépendante du regard des autres, et on l'a bien vu, vous l'avez dit, elle n'a pas une relation, enfin c'est très difficile entre le procès, les commissaires, etc. Elle reste extrêmement libre, elle n'est pas du tout dépendante du regard des autres, de l'avis des autres sur elle, donc, et c'est ce qui fait la fécondité aujourd'hui, à mon avis, de sa foi, et puis son obéissance. Son obéissance, quand elle va raconter, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est quand on a vécu des événements comme ça, qu'on a peut-être envie de dire au monde, et bien sa supérieure lui dit, vous allez raconter une fois aux sœurs, puis après vous vous taisez. Mm-hmm. L'obéissance, voilà.
L'obéissance parfaite.
Et puis à l'abbé Peyramal aussi, hein, enfin à tous ceux, les autorités ecclésiastiques qui l'entouraient, elle a parfaitement obéi.
Vous confirmez, Monseigneur?
Oui, absolument, en tant qu'évêque. Elle n'était pas... Je dirais, elle ne s'est pas mise en valeur, elle n'a pas attiré autour d'elle, parce que ça aurait été très facile. Hein. Et on sait que c'était une tentation d'avoir aussi des gens qui l'auraient un peu mis sur le piédestal, etc. etc. Non, elle est restée fidèle à ce qu'elle avait entendu, et fidèle à l'Église, effectivement, à travers le lien avec la paroisse, avec son curé, etc.
Florana, vous avez envie de réagir? Et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission.
Oui, moi je dirais que... Tout à l'heure je disais que dans un monde qui s'expose, Bernadette, elle se cache, mais je dirais aussi que dans un monde qui doute, elle croit. Et c'est peut-être cette foi, cette ténacité, tu l'as dit tout à l'heure Enzo, elle est têtue. Et c'est de rester, d'être restée accrochée aussi longtemps, et le fait que ça se ressente dans tous les aspects de sa vie, dans tous les moments de sa vie, même les plus faibles, je pense que c'est le plus inspirant.
Alors merci à vous tous pour ce premier échange autour de Sainte Bernadette, cette jeune femme que vous avez tous décrit comme une jeune femme courageuse, hein, humble, parfois incomprise, mais d'une force incroyable, et cela nous amène naturellement vers une autre figure, hein, et de votre diocèse, hein, c'est le diocèse de Montauban, très lié donc, et c'est Monseigneur Théas, ancien évêque de Montauban, lui aussi témoin de Dieu dans un contexte difficile, avec un immense courage évangélique. On se retrouve dans quelques minutes, le temps d'une pause musicale. Merci à chacun.
Viens Jésus, viens sans mon cœur, viens me guérir de mes peurs. Viens Jésus, viens sans moi maintenant. Viens Jésus, viens sans mon cœur, toi la source du bonheur. Viens Jésus, viens en moi, maintenant. Viens Jésus, viens sans mon cœur, qu'importe l'endroit et l'heure. Viens Jésus, viens sans moi, maintenant. Viens Jésus, viens sans mon cœur, mène-moi vers tes hauteurs. Viens Jésus, viens en moi maintenant.
Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce plateau Vivante Église, autour de cette étable, vous avez pu découvrir dans la première partie de cette émission l'évêque de Montauban, Monseigneur Alain Guélec, toujours fidèle au poste. À vos côtés, Florane, à mes côtés, Enzo, sœur Marie-Laetitia de la communauté Marie-Mère de l'Église et vous-même, Père Jean-Baptiste Baudel. C'est une première expérience radio, un premier passage à la radio. C'est un peu votre baptême de l'air aujourd'hui.
Un petit peu.
Donc,
un petit peu.
Merci de votre courage. Relu un peu Bernadette, hein, cette courte vie, belle vie, remplie de courage, de cohérence, de liberté et puis d'obéissance. C'est une autre figure, une figure importante. C'est Monseigneur Théas qui a été évêque de Montauban dans un contexte historique brûlant, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été célèbre pour avoir dénoncé avec courage la déportation des Juifs. Ce n'était pas un acte politique, mais un acte profondément évangélique. Qu'a-t-il à dire à notre Église et à notre jeunesse aujourd'hui et à toutes les générations? Et c'est vers vous que je me tourne, Monseigneur Alain Guélec. Quelle place occupe cette figure de Monseigneur Théas dans la mémoire de votre diocèse? Et merci.
Oui, alors ce n'est pas... Ça remonte effectivement aux années 40. Hein. Il a été nommé évêque de Montauban en 1940 jusqu'en 1947. Ensuite, il est devenu évêque de Tarbes et Lourdes, où il a beaucoup œuvré ici aussi. Pour le sanctuaire. Alors, voilà. Mais nous, regardons la partie montalbanaise, si vous voulez. Donc, dans cette période, effectivement, où il a été nommé évêque en 40, donc on imagine bien le contexte et toutes les années qui allaient se dérouler ensuite. Et très vite, je pense qu'il a pris conscience, effectivement, qu'il avait une mission à remplir pour être un petit peu... pour éveiller des consciences aussi, comme on pouvait le faire à l'époque. Alors, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux dont on a parlé qui pouvaient le faire, mais lui-même, il s'est levé pour dénoncer un certain nombre d'exactions commises par les occupants. Et puis, comme vous l'avez dit, finalement, cette fameuse lettre très brève, hein, qui n'est pas un long écrit, dans la suite du cardinal Saliège aussi à Toulouse, hein, qui avait été un peu l'initiateur, où il a effectivement, au nom de la dignité humaine, hein, du respect de la dignité de toute personne, il s'est élevé donc contre les déportations, les persécutions qui frappaient les Juifs à l'époque. Et ça lui a valu des ennuis, puisqu'il a lui-même été arrêté ensuite pour quelques mois.
Oui, tout à fait. Il a fait preuve d'un grand courage dans ce média qui est la lettre. Monseigneur Théas, est-ce qu'on... Oui, l'évêque Pierre-Marie Théas. A été l'un des seuls évêques de France. Je crois il n'y en a que 5 en France, hein, sur la centaine d'évêques, qui ont osé dénoncer les actes. Il a fait ça par pure fraternité. Vous parlez ici d'une mission évangélique, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'humain et de fraternel dans son message. On sait notamment qu'il a aidé de nombreux juifs, qu'il a signé des actes de baptême, qu'il a aidé en fait cette communauté persécutée par amour finalement, par l'amour envers son prochain.
Je pense aussi, bien sûr, que c'est par l'amour du Christ. Moi, ce que je retiendrai de lui, c'est son passage dans les camps. Quand il a été déporté, alors il a été une figure importante pour les personnes qui étaient dans les camps avec lui.
Voilà, il a à la fois d'humilité, de simplicité. Pour un évêque à l'époque, la simplicité, l'humilité n'était pas forcément toujours possible de la manifester. Et les hommes qui ont été avec lui en Caen ont été convertis, véritablement. Il a converti un certain nombre de personnes dans ce camp, où il reste très longtemps, parce qu'en fait, il voit partir beaucoup de ces hommes qui vivent avec lui, qui partent dans des camps beaucoup plus durs, beaucoup plus forts, et il les accompagne comme un véritable pasteur. Et je pense que, comme pasteur, avoir cette parole de courage, cette parole forte, il a pu l'avoir avant parce que elle l'habitait comme tout pasteur doit être habité par cela. C'est vraiment le Christ qui vivait en lui, donc voilà.
Moi, c'est vrai que ce que je trouve très fort aussi, mais ça rejoint la vie de Sainte Bernadette dans ses attitudes évangéliques. C'est comme le petit dire le Père et puis Monseigneur, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais il y a une mission évangélique qui est de dire au monde et de manifester que Jésus est présent et d'être témoin que Jésus est présent dans les difficultés. Là, c'est le cas concret de ce que le Père Jean-Baptiste dit, c'est que, et ce qui change les cœurs, et c'est le message vraiment de l'espérance, c'est-à-dire se dire, ben, Jésus est là, tout n'est pas réglé, même si Mgr Théas s'est battu, mais il a aussi accompagné dans le sens où il a manifesté, il a montré que Jésus était là et que Jésus était au cœur des souffrances des personnes qu'il accompagnait, de ces hommes.
Voilà, moi je vous pose la question, Mgr Guélec, et aussi à vous, mon père. Moi je me demandais, donc là on est face à Mgr Théas qui lui est allé sur le terrain, qui n'a pas eu peur de dire la vérité. Peut-être vous me direz, ce n'est pas le rôle des évêques, des prêtres, mais aujourd'hui, voilà, pour faire le lien avec tout à l'heure ce que j'ai dit pour le combat pour la vie, est-ce que par exemple les évêques doivent descendre dans la rue, est-ce qu'ils doivent monter des actions, enfin, aujourd'hui, moi je me dis, les évêques et les prêtres sont les bons bergers, ils doivent guider le troupeau, comment font-ils et comment doivent-ils faire?
Alors, descendre dans la rue, c'est peut-être pas nécessairement la première chose, mais il y a quand même et on s'en tâche de le faire, c'est de donner au moins aux personnes les capacités de réfléchir à ce qui se passe. Donc là aussi, il y a un rôle d'éclairer les consciences. Hein, voilà, d'abord, parce que bon, c'est déjà un premier rôle, ça aussi, c'est de. Et Mgr Théas l'a fait aussi à travers ses écrits, à travers ses actions. Donc je crois que le premier rôle aussi, c'est cela, c'est pas de prendre la tête d'une manifestation. Mais c'est de donner aux gens, après la liberté elle existe pour les personnes, mais c'est de donner aux gens de quoi réfléchir et de quoi aussi ne pas se laisser, je dirais, emporter par un tas d'événements, un tas d'influences, on parlait des influenceurs. Voilà, je crois qu'il y a aussi de former les consciences, ça c'est vraiment un rôle important aussi.
Et est-ce que c'est une vie épiscopale qui vous inspire quotidiennement Alors, la sienne.
Là aussi, il faut reporter les choses dans un contexte qui n'est plus le nôtre aujourd'hui. On n'est plus sous régime d'occupation dans les contextes qui étaient le sien. Mais effectivement, il y a aussi ce. Alors après, dans le diocèse, il a eu d'autres actions aussi, puisque là, on met l'accent sur cet événement-là. Mais il n'a pas été longtemps évêque de Montauban, donc en 7 ans, il n'a pas eu le temps de tout faire. Mais il a aussi œuvré comme pasteur. Dans un contexte d'un évêque de terrain, je dirais, comme tout pasteur. Hein. Mais il y a aussi quelqu'un qu'on oublie peut-être, qui était très associé à Mgr Théas, c'était sa secrétaire, mademoiselle Gineste.
Oui.
Hein, il ne faut pas oublier aussi que l'évêque n'est pas seul. Il a besoin de personnes aussi qui l'aident aussi à vivre quelque chose. Parce qu'un évêque tout seul, il peut avoir toutes les bonnes intentions qu'il veut, mais il doit être aussi accompagné et aidé.
Oui, Marie-Rose Gineste, oui. C'est ça. C'est elle qui a distribué la lettre, si je ne me trompe
avec
pas,
sa bicyclette.
En vélo, voilà, c'est ça. Et Sœur Marie-Laetitia, vous, est-ce que cette mission-là, est-ce que ce partage, c'est quelque chose qui vous inspire?
Avec son vélo, Sœur Marie-Laetitia.
Avec son vélo.
Alors, le vélo, ça m'inspire beaucoup, ça, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai participé à de nombreux PLVTT, les prêtres sont témoins. Mais c'est vrai que moi j'aime ce côté battant, il y a un côté fougueux où c'est vrai qu'on est emmené, alors ça dépend aussi des tempéraments, mais on est emmené par une question d'urgence qui est la vie, de protéger la vie. et là, que ce soit sous l'occupation et aujourd'hui, comment se battre pour la vie et à notre mesure. C'est-à-dire que dans tous les conflits ou les débats de ce que touche la vie, la protection, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, dans ma mission, c'est auprès des jeunes. Je suis très affectée par nos jeunes aujourd'hui qui sont assez démolis par les réseaux sociaux, les situations familiales. Et ça me touche énormément. Tout ce que je pourrais monter, tout en respectant ma vie religieuse et tout, et je suis très très aidée par mes sœurs et ma prieure pour me calmer aussi sur les 3000 idées que j'ai à la seconde. Si vous voulez, je me battrai parce qu'il s'agit de la vie des enfants, de l'avenir, de la dignité de la personne humaine. En fait, c'est ça dans toute sa dimension. Et là. Je veux dire qu'on fasse du vélo à pied, en trottinette, enfin tout ce que vous voulez.
Vous avez souligné aussi, sœur Marie-Laetitia, les défis aussi pour cette jeunesse. On pourrait leur demander quels sont les plus grands défis, selon vous, Enzo et Florane, pour aujourd'hui, pour votre génération. Voilà, car on relève qu'il y a une urgence dans un monde de chaos, confus, où Monseigneur Guélec relevait aussi l'importance d'éveiller, de réveiller aussi les consciences, pour faire aussi les bons choix et se lever au bon moment, voilà, et peut-être entrer parfois en résistance, comme Monseigneur Théas était rentré à son époque en résistance. Enzo.
Selon moi, le plus grand défi auquel je pense dans notre génération, c'est la sexualité, parce que tout autour de moi, au lycée, c'est 100% des jeunes qui couchent à droite à gauche, qui veulent me faire croire qu'on peut trouver notre femme une fois qu'on en a enchaîné 100. Et que si on n'a pas couché avec elle dès le premier soir, ben on ne sait pas si ça sera la bonne. Or, je constate aujourd'hui que tous les couples se séparent, c'est un monde hypersexualisé, c'est n'importe quoi. Même au sein des lycées, je fais une petite parenthèse un petit peu drôle, même si ça ne l'est pas, c'est que dès qu'on fait un petit jeu pour gagner quelque chose, on ne gagne plus des bonbons, mais des contraceptions. Donc, je trouve que c'est assez triste et j'aimerais beaucoup me battre contre ça et redonner un discours de vérité sur la sexualité, le don de soi et l'amour de l'autre.
Florane.
Je pense que ça découle peut-être d'un certain manque de Dieu dans la vie de ces jeunes. Alors peut-être que notre combat, il est dans l'évangélisation. Nous, en tant que jeunes, enfin Enzo, je connais tes missions, je connais ta foi et la manière dont tu la partages. Mais je pense que c'est ce dont on a besoin dans tous les diocèses, dans le nôtre, dans nos paroisses. C'est ces messages forts, c'est cette éducation, ce catéchisme, qui est hyper important. Vous en pensez quoi,
ouais.
L'abbé Baudel?
Bonne question.
Merci. Moi, c'est vrai que j'ai un peu cette expérience par rapport aux aumôneries. Dans les aumôneries, la première question des jeunes, c'est souvent celle-là. C'est souvent la sexualité, en effet. Moi, je crois que le Christ nous transforme d'abord par une rencontre qu'il faut avoir faite. Et beaucoup de jeunes viennent à l'aumônerie avec ces questions un petit peu sous-jacentes. Voilà, qu'est-ce que l'Église a à dire sur ma vie, sur ce que je vis comme sexualité, sur ce que je fais. Mais tout ça, ce sont des questions secondes. Vous voyez, elles doivent arriver après que la rencontre ait été faite. Plus j'approfondis ma connaissance du Christ, ma rencontre avec le Christ, plus je comprends en effet que ma vie peut se mettre au diapason de ce qui m'appelle à vivre. Voilà. Mais il faut du temps pour cela. Et on a des jeunes qui sont très, très blessés, très, très marqués. Et donc je pense que moi comme pasteur, je le vis dans l'accompagnement des jeunes comme d'abord leur faire rencontrer le Christ, leur faire découvrir sa vie, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, plutôt que tout de suite répondre à une question morale qui au fond elle tranche d'un coup, mais alors tout le temps bien sûr, eux comme pasteur on prêche. Voilà. Et je crois que l'homélie, pour le coup, est importante. Là, elle peut être un moyen de rappeler ce que l'Église dit, de ce que le Christ nous demande de vivre. Voilà. On pense aux paroles de saint Paul qui sont très fortes sur les premières communautés chrétiennes. Il ne transige pas. Il dit ce que doit vivre un chrétien, ce que doivent vivre ses communautés. Et donc ça, c'est important dans l'homélie, dans nos rencontres même un peu comme ça, de personne à personne, de rappeler la doctrine de l'Église. Mais voilà, je crois que
dans l'enseignement, il faut être plus ouvert. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monseigneur.
Monseigneur Guélec.
Effectivement, mais je crois qu'il y a aussi aujourd'hui, et on le constate, un besoin et une demande d'être accompagné aussi personnellement. Alors effectivement, il peut toujours y avoir en groupe, on peut faire des exposés, on peut donner effectivement des éléments. Bon, c'est nécessaire, mais il y a aussi cette autre dimension. Et je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui, alors, pas que des jeunes d'ailleurs, des adultes, vivent aussi quelque chose d'une profonde solitude. Notre société, malgré les apparences, est une société qui génère beaucoup de solitude. Et donc les gens sont un peu livrés à eux-mêmes. Alors on revient un peu à la question des réseaux, etc. Bon, qui ne jouent pas toujours ce rôle-là. Et on ne peut pas être accompagné par quelqu'un qui fait du TikTok. C'est pas ça. C'est pas ça l'accompagnement.
Vous avez envie de
réagir.
Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez que le message du Christ peut être passé à travers un format vertical de 15 secondes ou pas ? Alors, on en a vu des sœurs faire des playbacks sur des louanges.
Bien sûr. Alors, c'est des petits moyens, mais il faut inscrire quand même les choses dans la durée, un peu dans la profondeur. Le risque, c'est que tout soit superficiel. Et aujourd'hui, on entend une chose, demain, on entendra l'autre chose et son contraire, etc. Où est-ce qu'on fait l'unité de tout ça ? Et ça, c'est important d'avoir quelqu'un. Et on ne peut le faire qu'en rencontrant quelqu'un qui ne vous dira pas « tu dois faire ceci, tu dois faire cela pour être à la mode ». Non, mais pourquoi ? Quelles sont tes motivations, etc. Et donc, moi, je pense beaucoup aussi, et je sais que ça se fait, le Père Jean-Baptiste le fait, d'autres aussi. Et on n'a pas toujours les moyens pour le faire, parce que ne s'improvise pas accompagnateur qui veut non plus. Et donc là, je crois que là, il y a un enjeu aussi pour nous, et pour lutter, contre cette affreuse solitude qui génère effectivement toutes sortes de choses.
Merci infiniment. Vous relevez un point très très important. Je pense à tous ces baptisés, près de 17 000 baptisés, 7 000 baptisés de lycéens et puis d'adultes. Monseigneur, vous venez donc de soulever ce point qui est important de l'accompagnement spirituel. Quels sont les critères pour être et devenir et être appelé, parce que c'est de l'ordre aussi de la mission, un bon accompagnateur spirituel, Monseigneur. Vous-même pasteur et évêque de votre diocèse.
Comme je le disais, ça ne s'improvise pas, ça se cultive, ça se forme, il y a des formations pour cela.
Et puis on est appelé.
Déjà une grande capacité d'écoute, c'est la première chose. Avant d'intervenir, il faut écouter, il faut prendre le temps. Et une écoute, ça veut dire l'accueil, etc. Voilà. Et prendre ce temps d'écouter et puis de poser les bonnes questions. C'est pas nécessairement de dire « tu vas faire ça ». C'est-à-dire de savoir rebondir, etc. Donc ça se fait dans la durée. Et il y a des écoles de formation, si je puis dire comme ça, et ça c'est déjà... Et puis d'être accompagné soi-même, voilà.
L'accompagnateur accompagné, se vérifie aussi. Donc beaucoup de prudence. Vous avez aussi évoqué, Monseigneur Guélec, cette solitude. Je pense que parmi nos auditeurs qui écoutent peut-être cette émission aujourd'hui et ce beau plateau de Vivante Église, et merci à chacun d'avoir participé, on arrive bientôt à la fin de cette émission, je pense à chacun individuellement. Certains traversent des situations critiques, chaotiques, douloureuses, des deuils, des séparations, le monde est en plein chaos. Que diriez-vous, et ça sera un peu la conclusion là, pour chacun, Monseigneur, en tant que pasteur, à ces auditeurs qui vous écoutent maintenant, dans un monde un peu chaotique où on doute, parfois on désespère, parfois il y a du mal-être, parfois on n'a pas la joie qu'on devrait avoir, mais la tristesse va l'emporter. Comment encourager une parole de pasteur et merci.
Oui, alors il y a de tout, il y a aussi des gens qui vivent bien, il ne faut pas non plus tout,
tout à fait.
Noircir le tableau à l'extrême, fort heureusement, mais de fait il y a de tout, tout ça s'est mêlé bien sûr. Eh bien, c'est de dire aux gens aussi où est-ce qu'ils vont trouver les ressources pour sortir aussi de leurs difficultés. Alors dans la prière, pour beaucoup effectivement, mais je crois aussi à la fraternité, être accompagné, de participer si on peut à telle ou telle activité. Dans le diocèse, nous avons, j'ai impulsé un peu ce mouvement de création de fraternité pour lutter un peu contre tout cela. Il n'y a pas de recette, si vous voulez, c'est aussi le bon vouloir des personnes. Après, comment je fais aussi effort pour aller vers les autres,
Donc on écoute la radio, et si on est peut-être un peu trop enfermé chez soi, prendre cette décision aussi, cette ferme décision de sortir.
De sortir.
Sœur Marie-Laetitia, Père Jean-Baptiste Baudel, Enzo et Florane, ça sera un petit peu le mot de fin. Je vous remercie à chacun aussi de cette participation. Merci aussi de ce chemin avec ces deux grandes figures. On peut parler de belles figures, de beaux témoins, de belles personnes. Bernadette de Lourdes, qui terminera à Nevers, et puis aussi toute la vocation de Monseigneur Théas, qui a été ce pasteur courageux, pasteur de la vérité, voilà, qui a su, et vous l'avez relevé au cours de l'émission, Florane, et c'est une parole de jeune, qui parmi la centaine d'évêques, il n'était seulement que 5 à se lever. Donc c'est vous qui l'avez souligné, donc je le souligne en cette fin d'émission, donc on lance un appel peut-être à tous les évêques, n'ayez pas peur aussi de vous lever. Un mot de fin, Enzo, Sœur Marie-Laetitia, Père Jean-Baptiste.
Moi, j'ai un petit mot de fin qui me tient à cœur, c'est que je voulais dire que le Christ est mort et ressuscité pour sauver tout le monde, qu'il guérit, mais pas seulement, il transforme surtout, et que la vérité et l'amour triompheront. Donc j'ai plein d'espérance, il y a plein de conversions, donc amen.
Amen, amen. Sœur Marie-Laetitia.
Moi, je voudrais terminer sur la bonne compréhension de la promesse de la Vierge à Bernadette. Je ne vous promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre, mais déjà ici, c'est-à-dire du bonheur du ciel que le Seigneur veut donner par Marie, ici, déjà sur terre.
Merci.
Moi, c'est une parole de pasteur. Je crois qu'on est bouleversé. Enfin, moi, arrivé dans le ministère, j'ai été ordonné il y a un an, arrivé dans le ministère avec autant de dynamisme, de joie, merci à ces jeunes qui sont là, mais à tant d'autres qui donnent comme pasteur, pour un pasteur, une très grande joie de servir et de continuer à servir.
Moi, je pense que je prendrais l'exemple de ces deux figures que nous avons vues aujourd'hui qui, quand le monde disait non, tous deux donnaient leur oui, alors dites oui au Seigneur et laissez-le vous guider, je suppose.
Monseigneur Alain Guélec, je vais vous demander de terminer ce Vivante Église avec une bénédiction aussi pour tous les auditeurs qui vous ont écouté, à tous les 5 et qui vous ont suivi. Merci de votre bénédiction.
Eh bien, on les salue tous et que Dieu les bénisse, les encourage, les fortifie aussi. Et je dirais qu'il y a aussi de belles choses qui se vivent. Il faut aussi regarder tous ces ferments évangéliques qui sont là et qui sont signes d'espérance. Je crois qu'il ne faut pas négliger aussi que l'espérance, elle est vivante parce qu'elle vient de Dieu et que ce qui vient de Dieu ne peut pas disparaître.
Ah, amen, oui, Christ est ressuscité. Hein. Il est bien ressuscité. Restons dans cette résurrection du Christ et ce mouvement de vie, dans l'espérance et en se jubilé de l'espérance. Merci à chacun. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.